Deutsche Welle. Le club de l'auditeur.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the
content. Je rêve que mes quatre petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Je fais aujourd'hui un rêve. Je rêve qu'un jour, sur les collines rousses de Géorgie, les fils d'anciens esclaves et ceux d'anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je rêve qu'un jour, même l'état du Mississippi, où brûlent les feux de l'injustice et de l'oppression, sera transformé en un oasis de liberté et de justice. Qui ne connaît pas ce célèbre discours prononcé par le pasteur noir américain Martin Luther King à Washington le 28 août 1963 devant 250 000 personnes après la marche contre les discriminations raciales. Un discours dans lequel il dit son rêve d'une Amérique fraternelle où blancs et noirs se retrouveraient unis et libres. 50 ans après l'assassinat de Martin Luther King le 4 avril 1968 à Memphis, aux États-Unis, que reste-t-il de son héritage, y compris en Afrique? On en parle aujourd'hui dans le club, l'émission à votre écoute et votre service, animée par Mireille Drone, comme tous les samedis à 17h05 et tous les dimanches à 7h, temps universel, sur les ondes de la DW ou Deutsche Welle, la radio-télévision internationale allemande. Bienvenue à toutes et à tous. Et un petit coucou pour commencer à Hugo de Nantes en France, en le remerciant de son rapport d'écoute, à Moïse de Port-au-Prince en Haïti, Saïdou de Daloa en Côte d'Ivoire, Roberto de Cotonou au Bénin, Biran de Dakar au Sénégal, Mohamed de Bamba au Mali, Abakar de N'Djamena au Tchad et Alain de Bukavu en RDC en les remerciant de leur fidélité. Et puis Soumia de Kenitra au Maroc, Adèle de Mila en Algérie, Eric de Lomé au Togo, Alexandre de Mitsik au Gabon, Alain de Kinshasa en RDC et Adji de N'Djamena au Tchad ont fêté ces derniers jours leur anniversaire, alors nos meilleurs vœux. Fils de pasteur, Martin Luther King est né le 15 janvier 1929 à Atlanta, en Géorgie, et fait l'expérience du racisme. Excellent à l'école comme en théologie, il devient lui-même pasteur dès l'âge de 17 ans. Il est très actif quand Rosa Parks refuse de céder sa place dans un bus à un homme blanc en Alabama. Après 380 jours de boycott contre la compagnie de bus, la ségrégation raciale est interdite dans les transports publics. Il soutient aussi les Freedom Rides en Géorgie, où les Noirs démontrent la force de la non-violence en petits groupes contre la ségrégation raciale dans l'espace public. Leur mobilisation aboutit à la loi sur les droits civiques qui prévoit une large égalité au niveau national. Prix Nobel de la paix, il organise en 1965 en Alabama la marche de Selma à Montgomery. Malgré les menaces et intimidations, Martin Luther King poursuit son combat jusqu'à son assassinat le 4 avril 1968, donc à Memphis, par un ségrégationniste blanc. Il a alors 39 ans. Que reste-t-il donc, 50 ans après, de la vision et du combat de l'icône de la lutte contre les inégalités raciales? Vous avez été très nombreux à vous exprimer sur la question. Camille de Niamey au Niger estime par exemple que Martin Luther King reste l'icône de la lutte pacifique et en même temps acteur de l'égalité sociale dans le monde. Tel qu'il a défendu les intérêts des Noirs aux États-Unis, il restera gravé dans nos mémoires avec sa formule de rêve devenue réalité. Réalité, affirme Camille. Oui, ce pasteur nous a vraiment marqué par sa lutte non violente. Il reste dans nos cœurs, assure aussi Patient de Lubumbashi en RDC. Et selon Bill du Burundi, Martin Luther King reste le meilleur exemple de tous ceux qui combattent les discriminations. Son héritage est si grand que nous ne pourrons jamais lui dire assez merci, écrit-il. Et Miramontes de Guadalajara au Mexique estime qu'il est la plus grande icône des Noirs dans le monde. Caleb de Lomé au Togo nous a laissé lui un message sur WhatsApp.
Moi, 50 ans après le fameux discours « I have a dream » prononcé par le pasteur Martin Luther King, on peut dire que ses rêves sont devenus presque une réalité. Presque une réalité en ce sens que aujourd'hui, les Noirs peuvent vivre et coexister avec les Blancs. Il n'y a plus de loi taillée sur mesure pour les Blancs et de loi taillée sur mesure pour les Noirs. Les populations peuvent coexister ensemble. Cela veut dire qu'il y a une avancée en matière de démocratie aux États-Unis. Mais l'autre revers de la chose, c'est qu'il y a également des poches de résistance où le racisme persiste toujours. Parce que ces dernières années, vous êtes sans savoir que les races noires sont les plus à recevoir de balles dans leur corps. Et ce sont des choses qui ne sont pas aussi tellement justifiées. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les États-Unis doivent également faire des efforts s'ils veulent rester le modèle de démocratie que nous connaissons tous. Donc, faire des efforts pour éviter ce genre de choses.
La ségrégation a certes été abolie, mais les injustices et la violence persistent dans la société américaine. La ville de Memphis, par exemple, compte 63% d'Afro-Américains et le taux de pauvreté des adultes y est de 44%. Mahaman du Mali admire, lui, le pasteur, pour sa détermination et souhaite que son action soit pérennisée.
C'est un des hommes que j'ai beaucoup admiré, vu son parcours, son abnégation, l'homme qui a lutté pour une égalité des races aux États-Unis, qui a lutté contre l'injustice. Mais cependant, il reste beaucoup à faire aux États-Unis, car dans certains contrées aux États-Unis, le jeune noir a toutes les chances qu'on l'abat sans cause, parce que tout simplement c'est un noir. Il a toutes les chances d'être assassiné par la police, parce que tout simplement c'est un noir. Cela dit, le peuple américain doit œuvrer pour pérenniser ou concrétiser le rêve de Martin Luther King. Et un rêve qui est cher à toute l'humanité, que tout homme est égal à un autre homme, pas de différence de race, de religion. Donc, moi je souhaite longue vie aux œuvres de Martin Luther King.
L'Amaran guinéen d'origine vit à New York et il constate les inégalités persistantes, tout comme la détermination d'ailleurs de la communauté noire à l'occasion des cérémonies d'hommage aux pasteurs assassinés.
Pratiquement à New York, surtout dans les milieux des associations de défense des droits de l'homme, il y a eu des cérémonies qui ont marqué l'événement, le 50e anniversaire de l'assassinat du pasteur.
Oui.
Donc, cela a réveillé les gens et je pense que tout le monde est à la quête d'un leadership qui va donner un nouveau souffle au mouvement pour les droits civiques, puisque le combat, il est toujours là. Et on doit savoir que ce que Martin Luther King luttait, c'est-à-dire les droits civiques, le racisme, ça existe toujours aux États-Unis et surtout ensuite les violences policières. Donc ce sont des choses que vraiment tous les combattants, les gens qui sont épris de liberté doivent combattre de façon systématique pour pouvoir éradiquer ça aux États-Unis.
Oui, et vous par exemple, vous en faites aussi l'expérience?
Oui, même moi dans les lieux où je travaille quand même, je ressens ça un peu, mais c'est pas de façon ouverte. Mais quand même, je ressens ça.
Parce que certains disent d'un autre côté que les États-Unis, quand même, offrent d'énormes chances à qui arrive, à qui a les capacités, qui peut servir, entre guillemets, la nation, quelle que soit son appartenance communautaire.
Oui, on le dit souvent que c'est un pays d'opportunité, puisque si vous êtes là et que vous avez les bagages, les compétences qu'il faut, là, le gouvernement ou bien les États ne vont pas hésiter à vous prendre en compte pour vous ouvrir les chances de bien travailler et que eux aussi, ils profitent de vos expériences.
C'est ça. Mais malgré tout, il reste quand même des discriminations, donc.
Oui, la discrimination, elle est toujours là. C'est un combat de longue haleine. Mais je pense qu'il est toujours bon de continuer le combat et prôner la non-violence jusqu'à ce que vraiment ces revendications là puisse être satisfaite et que le gouvernement fédéral puisse prendre cela en compte. Et que les Noirs aussi doivent essayer vraiment de changer, comment dirais-je, de se donner la volonté de pouvoir étudier, pousser les études afin d'avoir une bonne formation et de chercher des emplois bien rémunérés.
Alors vous disiez que bon, sa lutte non-violente a apporté de grands changements chez les Noirs, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de ségrégation en tant que telle, mais néanmoins il reste encore beaucoup à faire, le combat continue. Selon vous, justement ce combat c'est quoi? C'est la pauvreté, c'est la justice? Quels sont les axes principaux de ce combat qui doit se poursuivre actuellement?
Surtout ces deux aspects, il y a la pauvreté, et ensuite la justice sociale. Sont deux aspects vraiment qui font que les minorités noires aux États-Unis ici sont souvent légers. En ce qui concerne les violences policières, généralement ce sont les policiers blancs qui abattent les noirs, mais il n'y a jamais de justice. Est-ce que vous voyez?
Oui.
Et ensuite, dans les milieux noirs, la pauvreté vraiment, elle est là, elle est aiguë. C'est vrai que quand même que les gens ne sont pas dans les bonnes conditions pour pouvoir bien étudier ou bien travailler comme cela se doit. Puisque même au niveau du travail, il y a une certaine discrimination. On peut voir des gens qui ont fréquenté les mêmes universités, qui ont les mêmes diplômes et qui sont employés dans les mêmes entreprises, dont les traitements sont différents.
À qualité et à qualification égale, il y a une discrimination.
Yeah.
Ce ne sont pas seulement les couches les plus défavorisées qui sont discriminées, parce que bon, elles restent dans cette pauvreté, mais même, dites-vous, ceux qui ont fait par exemple des études ou qui ont une formation, une qualification, qui sont moins bien traités que les citoyens blancs donc.
Oui, absolument, c'est ça, c'est ça.
I have a dream. We cannot be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote, and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote.
Nous ne pourrons être satisfaits aussi longtemps qu'un noir du Mississippi ne pourra pas voter et qu'un noir de New York croira qu'il n'a aucune raison de voter. Non, nous ne sommes pas satisfaits, ne serons jamais tant que le droit ne jaillira pas comme l'eau et la justice comme un torrent intarissable. Aussi longtemps que le noir sera la victime de la brutalité policière, affirmait Martin Luther King. Alors, il reste beaucoup de son héritage, parce que c'est grâce à lui que les Noirs d'Amérique sont libres, même s'ils subissent encore des injustices, mais on ne doit pas l'oublier, nous écrit Jean-Baptiste de Cara au Togo. Pourtant, l'action de Martin Luther King ne semble pas être beaucoup enseignée en Afrique. Et cela, bien que son combat ait couvert toute l'Afrique, car la colonisation a touché presque tous les pays de la vie de Benjamin Delomé. Ce que confirme cette internaute togolaise.
Ici au Togo, on entend parler de Martin Luther King rien que dans les livres et dans certains films, parce qu'on n'étudie pas ça à l'école. Peut-être dans les grandes études, dans un domaine spécialisé. Sinon, ce que je sais jusqu'à présent, étant à l'université, c'est que j'ai jamais étudié sa vie en tant que telle. Jamais étudié ce qu'il a réellement fait. Non, on sait ce qu'il a fait, on connaît une de ses paroles, une citation, « I have a dream », et c'est tout.
Malheureusement, dans mon pays, on ne nous enseigne que les histoires des colons, regrette encore Ferdinand du Togo, même si certains, comme Baudouin de Goma en RDC, affirment avoir étudié l'histoire du Pasteur King en deuxième secondaire. On est plus axé sur nos héros, comme le prince Louis Rwagasore, père de notre indépendance, observe un internaute du Burundi. En général, ce sont les héros africains qui sont plus appris, écrit-il. Désiré de Lubumbashi constate aussi que le combat de Martin Luther King n'est pas enseigné en RDC.
Le combat de Martin Luther King n'est pas connu dans notre pays pour beaucoup parce qu'on le lit seulement à l'internet et on l'apprend au niveau des écoles littéraires, philosophiques, mais ceux qui font les sciences et d'autres domaines, les sciences dites exactes, ne connaissent presque pas de Martin Luther King. Mais en philosophie, nous l'avons beaucoup exploité et avec les autres leaders anti-impérialisme, par exemple Gandhi et autres, mais il n'est pas presque connu par les jeunes aujourd'hui. Et pourtant, son combat est un combat sérieux, d'autant plus que les injustices persistent encore dans ce monde.
Au Mali, son combat n'est pas non plus enseigné, alors que le problème de discrimination communautaire est réel dans notre pays, nous écrit Moulay de Gao. Nous avons besoin de son enseignement, insiste-t-il. C'est vrai aussi dans plusieurs pays d'Afrique, estime Seba, lui aussi du Mali, tout en soulignant que le rêve de Martin Luther King a été réalisé par ses fils et petits-fils. Mais la lutte continue, parce que le racisme persiste dans certains coins du monde, en Afrique notamment, écrit-il. Un avis que partage Steve d'Abidjan, qui invite les Africains Africains à s'engager dans la lutte contre la discrimination. Kader Lee d'Abidjan, Côte d'Ivoire, semble lui dépité. « J'ai lu son livre en classe de 4e et regardé plusieurs films sur lui », nous écrit-il. « Son discours m'a fait rêver, mais aujourd'hui, on se rend compte que dans nos sociétés, les jeunes manquent de repères. Nos dirigeants ne font plus rêver, le monde est devenu de plus en plus cruel. L'Europe ferme ses frontières, l'Amérique de Trump expulse, les terroristes font leurs lois, les jeunes Africains meurent dans la Méditerranée et c'est presque devenu banal. » Où est le rêve de Martin Luther King? Vraiment, 50 ans après, c'est comme s'il était mort deux fois. Dommage, regrette Kader Lee. Corneille de Kinshasa observe que Martin Luther King s'est battu contre trois mots. Le racisme, la pauvreté et la guerre. Hélas, aujourd'hui, ces mots persistent encore, regrette Lee lui aussi. Il n'empêche que même si aujourd'hui son rêve n'est pas tout à fait effectif, Martin Luther King nous a tracé la route pour réveiller ceux qui dorment sur les droits civiques. Il nous a tracé le chemin de la lutte antiraciale pour l'égalité, l'équité. Il a appris à l'humanité comment régler les différends par d'autres moyens que la force, observe Abaloneton du Togo. Même si le langage de la violence perdure, le dialogue doit rester privilégié, pense aussi Josaphat de RDC. En revanche, Vital, dans la région des Grands Lacs, affirme que la non-violence ne peut servir que quand l'oppresseur a un certain niveau de civilité, un minimum d'humanisme. Elle ne peut pas servir face à des oppresseurs barbares. Cette grande figure de l'histoire continue en tout cas d'inspirer certains combattants des droits civiques. C'est ce qu'affirme par exemple Irénée de Bukavu en RDC. « Nous nous en inspirons pour défendre nos droits par des moyens non violents », écrit-il. Ce que confirme Caris Bassoko du réseau d'organisation des droits humains et d'éducation civique d'inspiration chrétienne à Kinshasa.
Pour moi, Martin Luther King est une force, est un symbole, est une référence. Référence en termes de courage, en termes de détermination, en termes de persévérance. En commençant par le fameux épisode de boycott de bus à Montgomery, où il a eu à mobiliser toute la communauté noire de Montgomery afin de protester contre l'interdiction à des hommes de couleur, à des hommes noirs, de s'asseoir devant dans les bus, d'avoir des places réservées à l'arrière. Le fait de mobiliser autant de monde demande quand même une force de caractère, demande quand même une persévérance, demande un courage qui n'est pas donné à tout le monde. Ensuite, il y a eu la marche à Washington qui a donné lieu au fameux discours de I Have a Dream. C'est quelqu'un qui a montré toujours une forme de persévérance, de courage, malgré les épreuves. Par épreuve, j'entends par exemple le fait que l'appareil sécuritaire américain, notamment le FBI, exerçait une pression terrible sur lui, sur sa famille, pour le faire taire, pour le faire abandonner son combat. Malgré cela, Martin Luther King tenait. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui doivent s'inspirer d'une telle figure face aux dictatures auxquelles nous faisons face aujourd'hui pour tenir malgré les pressions directement sur nous, sur le membre de nos familles, finalement, ce qui donne une certaine importance à la vie d'un homme, c'est le fait qu'il puisse se tenir debout pour des idées justes, des idées en accord avec sa conscience, et aussi des idées qui, finalement, défendent la dignité de son peuple, comme l'a fait Martin Luther King. Donc, je crois que ceux de ma génération ont tout à gagner à s'inspirer de sa vie, de son combat et de sa détermination, de cette force de caractère qui l'a caractérisé. Et je pense que si aujourd'hui on parle autant de lui, c'est parce qu'il était déterminé dans ce qu'il faisait. Et nous avons tout intérêt, nous jeunes Africains du 21e siècle, de le prendre pour référence, non seulement dans la théorie, mais également dans les actes, afin que se relève l'Afrique de demain.
Vous dites concrètement, par exemple, Martin Luther King s'est battu notamment contre la brutalité policière, mais aussi les droits civiques, le droit de vote, le droit à la justice. Alors, si vous rapportez ça, par exemple, à votre pays, la RDC, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que vous pensez que son combat peut vous inspirer pour réclamer le droit de vote pour tous et qu'il soit pratiqué, quoi?
Concrètement et en contextualisant avec la RDC, je dirais que les jeunes doivent simplement se lever et, si possible, battre le pavé pour, par exemple, réclamer l'instauration d'une vraie démocratie ou le respect des libertés fondamentales. Vous êtes sans savoir que la plupart des jeunes ici au Congo, des jeunes engagés, font l'objet d'énormes pressions de la part du pouvoir politique. Oui. Et ça crée un peu une certaine psychose dans les chefs des plusieurs jeunes, de nombreux jeunes, qui ont peur de s'engager. Et pourtant, s'il faut s'inspirer de quelqu'un comme Martin Luther King, la peur de la prison, la peur de mettre sa vie en danger ne doit pas nous paralyser par rapport aux revendications justes, aux revendications qui épousent notre conscience que nous devons mener. Donc les jeunes d'aujourd'hui de la RDC ne doivent pas avoir peur de se lever pour réclamer le respect des libertés publiques, les respects de leurs personnes et aussi, par exemple, des élections crédibles, libres et transparentes. On ne doit pas avoir peur sous prétexte que notre vie serait menacée ou notre sécurité serait menacée.
Et donc, selon vous, toujours par démarche et toujours dans la non-violence, dans l'esprit de Martin Luther King?
Absolument, et c'est important d'insister sur la non-violence parce que Martin Luther King, contrairement à d'autres leaders américains de l'époque, a toujours prôné la non-violence et a toujours insisté pour créer dans l'esprit de l'oppresseur un respect, une forme de respect. Donc les jeunes aujourd'hui doivent épouser un peu toutes ces techniques tactiques de non-violence et réclamer un peu leurs droits, les respects de leurs droits. Quand je dis par exemple battre le pavé, ça veut dire marcher en ne s'armant pas des pierres, même si en face il y a des balles, parce que Martin Luther King aussi faisait face à des policiers qui étaient parfois armés, qui usaient des violences, et je crois que pendant tout le long de son parcours, il a eu à voir plusieurs de ses compagnons tomber sous les coups de la police américaine. Et j'ai même appris récemment que quelques jours avant la mort de Martin Luther King, son frère avait été mystérieusement retrouvé mort. Donc quand vous avez autant de pression psychologique qui vous accable, qui accable le membre de votre famille, là je pense à l'attentat que son foyer a subi, où sa femme pratiquement lui demandait de laisser tomber presque le combat. Donc face à toute cette pression, le monsieur a eu la force à la fois de résister, mais à la fois de se battre pour les revendications qu'il prenait pour juste dans la non-violence. C'est quelqu'un qui mérite un respect éternel.
Notez que Martin Luther King III, le fils du pasteur King, a annoncé mercredi le lancement prochain d'une initiative mondiale avec les familles du Mahatma Gandhi et de Nelson Mandela pour encourager la non-violence chez les jeunes. I have a dream. Voilà, pour réagir à ce magazine ou sur tout autre sujet qui vous tiendrait à cœur, eh bien envoyez-moi par exemple un mail à l'adresse suivante mireille.drone@dw.com. Vous pouvez aussi nous laisser des messages écrits ou parler par WhatsApp. Pour vous inscrire, tapez tout simplement dw.com/WhatsApp et vous serez guidé pour entrer en contact avec nous. C'est tout simple et vous recevrez aussi nos informations gratuitement. Et puis, je vous invite à consulter notre site internet en tapant dw.com/français. Vous y trouverez les émissions du Club de l'Auditeur et tous nos programmes à télécharger dans la rubrique médiathèque en haut de la page d'accueil, ainsi que les liens vers nos pages Facebook et Twitter. À très bientôt donc, de vos nouvelles j'espère. Bonne écoute et excellent week-end à tous. Au revoir.
people feel that they are weak, and we have to make them understand they are not weak. They can contribute to change. Burma's problems stem from bad governance, and unless we can change that, we cannot do anything.
I have a dream.
Friends, you are meeting at a time of great challenge for the world community. Terrorism has now become a global reality, making every other part of the international agenda more difficult to achieve. The time for change is now.
I have a dream.